Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Au moins 3 gendarmes au Burkinabé ont été tués hier et plusieurs portés disparus dans une attaque perpétrée par des djihadistes présumés contre un convoi militaire dans l'est du Burkina Faso. Yacouba Ouédraogo fera le point. Et au Mali, 5 militaires maliens ont été tués hier dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le centre du Mali. Michel Joseph nous donnera les détails. Au Niger, de plus en plus d'enfants sont tués ou recrutés par les groupes armés terroristes, en particulier dans les zones frontalières du Burkina Faso et du Mali, où les attaques djihadistes se multiplient ces derniers mois, a dénoncé ce lundi Amnesty International dans un rapport sur les répercussions croissantes du conflit sur les enfants dans la région de Tillabéri. Une génération entière grandit entourée par la mort et la destruction dans cette région. Des groupes armés ont attaqué à maintes reprises des écoles et des réserves de nourriture et ciblent des enfants lors de leur recrutement, a déclaré Matt Wells, directeur adjoint à Amnesty International. En Algérie, le journaliste et défenseur des droits humains, Hassan Bourras, a été placé en détention provisoire et inculpé pour appartenance à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et complot contre la sécurité de l'État visant à changer le système de gouvernance, a-t-on appris hier auprès de l'un de ses avocats. Monsieur Bourras avait été condamné à un an de prison en 2016 pour avoir insulté un juge, un membre des forces publiques et un organe gouvernemental. Amnesty International l'avait alors qualifié de prisonnier d'opinion et déclaré qu'il avait été condamné pour une vidéo dénonçant la corruption de responsables locaux dans la ville d'El Bayad. Ismaël Abouz Reiba El Zouaï, un photographe libyen arrêté en 2018 dans la ville d'Ajdabiya, dans l'est de la Libye, est condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire pour, je cite, « communication avec une chaîne de télévision qui soutient le terrorisme », a été relâché par les forces de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, a-t-on appris de sources officielles hier. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé hier, lors d'une allocution télévisée, son intention d'introduire un passeport vaccinal dans un contexte de défiance généralisée à l'égard du vaccin contre le COVID-19, dans le pays du continent le plus touché par les virus. Le tir de missile mené par Pyongyang ce week-end souligne le développement continu par la Corée du Nord de son programme nucléaire et les menaces que cela fait peser sur ses voisins et la communauté internationale, a réagi hier le Pentagone dans un communiqué. Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, a présenté hier un projet visant à améliorer les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza en échange d'un engagement au calme du mouvement Hamas au pouvoir dans cette enclave paupérisée. Peu après l'annonce du plan Lapid, une roquette a été tirée de Gaza vers le sud israélien, où elle a été interceptée par le bouclier antimissile Dôme de fer, le troisième incident de ce type en 3 jours. En réponse, nous avons frappé 4 complexes du Hamas d'entraînement militaire, d'ateliers d'armement et entrée d'un tunnel terroriste souterrain, a indiqué l'armée israélienne sur Twitter. L'Agence internationale de l'énergie atomique a négocié dimanche avec l'Iran un nouveau compromis sur la surveillance du programme nucléaire, réveillant l'espoir d'une reprise imminente des pourparlers de Vienne. Autour de SpaceX de se lancer dans le tourisme spatial, une fusée de la société d'Elon Musk doit propulser ce mercredi 4 passagers pour passer 3 jours dans l'espace, une mission très ambitieuse qui sera la première de l'histoire à n'envoyer en orbite que de complets novices sans aucun astronaute professionnel. suite de nos informations, au Mali, l'armée a annoncé que 5 militaires maliens ont été tués hier dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés dans le cercle de Massina, dans le centre du pays. Le point avec Michel Joseph.
Dans un communiqué, l'armée malienne affirme qu'une patrouille de militaires maliens a énergiquement réagi à une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non encore identifié. Elle affirme qu'en plus des militaires maliens tués, 3 djihadistes ont péri. Le communiqué ajoute que 5 véhicules militaires maliens ont été brûlés et 3 véhicules des assaillants détruit. Auparavant, la MINUSCA, mission de l'ONU au Mali, a annoncé que 3 de ses casques bleus ont été blessés samedi par un engin explosif près de son camp à Kidal, dans le nord-est du pays. Toujours samedi, 2 camionneurs marocains ont été tués à des centaines de kilomètres de Bamako, où ils acheminaient des marchandises, par des assaillants non identifiés, selon des sources diplomatiques marocaines et sécuritaires maliennes.
Et au Burkina Faso, au moins 3 gendarmes ont été tués hier et plusieurs portés disparus lors d'une attaque par des djihadistes présumés contre un convoi militaire dans l'est du pays. Les détails avec Yacouba Ouédraogo.
L'attaque a eu lieu sur l'axe Matiakwali-Kantiari, près de la frontière du Niger, alors que l'équipe assurait une mission d'escorte logistique au profit de la société minière de Bungu. Les assaillants ont posé des engins explosifs sur la route avant d'ouvrir le feu sur le convoi, a expliqué une source sécuritaire, ajoutant que d'autres éléments manquent toujours à l'appel sans plus de précision sur le nombre de portés disparus. Selon une source locale, un civil a également été tué, probablement un membre des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée. Les groupes djihadistes s'en prennent souvent aux employés des mines d'or. En novembre 2019, une attaque à Bungu a fait au moins 38 morts.
En Somalie, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a assuré hier à des diplomates de l'ONU en visite dans son pays que les élections se dérouleront comme prévu, malgré les récentes tensions au sommet de l'État. Le point avec John Linden.
Nous sommes déterminés à organiser les élections comme prévu à la fin de l'année, a affirmé le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Cette annonce intervient après que Mohamed Hussein Roble a reçu une délégation dirigée par Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. L'escalade entre le chef de l'État Mohamed Abdulhani Mohamed, dit Farmajo, et son Premier ministre a plongé la Somalie dans une nouvelle crise ces derniers jours. Les deux hommes se sont opposés cette semaine au sujet du limogeage et de nomination au poste des ministres de la Sécurité et des directeurs de l'Agence des renseignements. L'annonce mi-avril de la prolongation pour 2 ans du mandat de Farmajo, arrivé à expiration en février sans que de nouvelles élections aient pu être organisées, a déclenché des affrontements armés dans la capitale. La désignation des membres de la Chambre basse, dernière étape avant l'élection du chef de l'État, selon le système élection indirecte somalien, doit se tenir entre le 1er octobre et le 25 novembre.
Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a effectué hier une courte visite à Kaboul, en Afghanistan, la plus importante au niveau diplomatique dans ce pays depuis le retour au pouvoir des talibans. Le point avec Nani Talani.
Le ministre Mohamed bin Abdurrahman Al-Thani, intermédiaire de premier plan dans la crise afghane, a rencontré plusieurs dirigeants talibans selon un compte Twitter taliban officiel. Il s'est aussi entretenu avec l'ancien président afghan Hamid Karzai selon des photos publiées sur les réseaux sociaux. À Doha, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les discussions entre le ministre qatari et les talibans ont porté sur les moyens de promouvoir la paix en Afghanistan, les développements concernant l'aéroport de Kaboul et les moyens d'assurer la liberté de passage et de voyage pour tous. D'après un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les deux parties ont souligné l'importance de combattre les organisations terroristes qui menacent la stabilité de l'Afghanistan. Aucun pays n'a à ce jour officiellement reconnu le nouveau gouvernement des talibans.
Après 11 années de tensions marquées par la fermeture des frontières, le commerce transfrontalier entre le Soudan et le Soudan du Sud a repris. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, cette nouvelle ère permettra à son pays de bénéficier des services du Soudan, en particulier des produits alimentaires, de l'essence et d'autres choses. De même, des entreprises sud-soudanaises pourront exporter vers le Soudan. En Afrique du Sud, l'inclusion des énergies renouvelables devient de plus en plus une priorité, aussi bien pour le secteur privé que pour les entreprises publiques. La société Eskom met à la disposition des entreprises une formule d'intégration du renouvelable dans leur mix. Selon la compagnie, le programme permettra aux clients de disposer d'un approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 pour leurs installations. En Égypte, Arabian Food Industries a signé un accord de 2,5 millions d'euros pour l'acquisition de lignes de production auprès du fournisseur américain d'équipement de boulangerie AMF. La compagnie compte renforcer sa présence sur le marché égyptien qu'elle fournit déjà en jus de fruits, en fromage et produits de pâtisserie et entend démarrer les opérations d'ici mi-2022.
Merci Rosine. Et maintenant, les sports avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football à la une, préliminaire des interclubs de la CAF, premier tour aller de la Ligue des Champions.
Oui, et ça commence mal pour les Algériens du CR Belouizdad, battu 1-0 au Nigeria par Akwa United, le second représentant du Nigeria. Rivers United aussi remporte son match aller, mais à l'extérieur 1-0 sur le terrain des Tanzaniens de Young Africans. Belle victoire en déplacement également des Zambiens de Zanaco 2-0 à Malabo, face à Akonangi FC et des Libyens d'Al Ittihad chez les Zanzibars de Kikuzi.
Deux autres équipes ont aussi réalisé de meilleures opérations à l'extérieur.
Tout à fait. Deux formations victorieuses 1-0 à chaque fois. L'ASEC d'Abidjan sur le terrain des Sénégalais de Tungut et le stade malien aux dépens des Burkinabés de l'AS Sounabel dans un match délocalisé à Yaoundé. Autre performance, grosse performance d'ailleurs des Gambiens de Fortune FC qui ont pulvérisé 3-0 les Algériens de l'Entente du Sétif. Coup de victoire par contre 1-0 des Mozambicains de l'US Songo qui recevaient les Congolais de l'AS Otoho. Beaucoup de matchs nuls ont été enregistrés. 1-1 concédé par les Gabonais de Boingigi Sport face à Manema Union de la RDC. Même résultat entre les Djiboutiens d'Ata Sola et les Kenyans de Tusk. Pareil pour les Béninois du Zaïre qui recevaient les Mauritaniens du FC Nouadhibou.
On jouait aussi le premier tour aller en Coupe de la Confédération et l'autre club béninois, les Buffles du Borgou, ont mal voyagé au Maroc.
Exactement Idrissa, puisque battu 3-1 par les militaires des forces armées de Rabat, le club de Parakou aura donc 2 buts à remonter sans en encaisser au match retour. Sinon, belle victoire des Sénégalais de Diamba, 3-0 face aux Guinéens de Wakria en un seul match. Une décision de la CAF après le coup d'état militaire en Guinée. Même score en faveur des Togolais de la SCK devant les Mauritaniens d'Aza Concorde. Pour le reste, notons le nul 0-0 entre les Burkinabés d'Asfa Yeninga et les Ivoiriens du FC San Pedro. Score identique entre les Gabonais de Manga Sport et les Botswanais d'Orapa United. Les matchs retour de ces deux compétitions auront lieu en fin de semaine.
Et puis du volleyball pour terminer, le programme des demi-finales de la CAN féminine aujourd'hui au Rwanda.
En première heure, on va assister au choc entre la Tunisie, tenante du titre et vainqueur de la RDC 3-7-0 en quart de finale, et l'Égypte qui a éliminé l'Ouganda 3-7-1. L'autre ticket pour la finale se jouera entre le Maroc qui a mis fin au parcours du pays hôte le Rwanda et le Cameroun tombeur du Nigeria.
Merci Élisée. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, invite les Guinéens à des concertations toutes les composantes nationales sont ainsi conviées à des rencontres avec le Conseil national pour le rassemblement et le développement. Zakaria Camara fait le point.
La série d'échanges entre les nouvelles autorités militaires du pays et les acteurs sociopolitiques guinéens se tiendra au Palais du Peuple à Conakry. Ce sont les leaders des partis politiques qui ouvrent ces concertations. Rentré samedi d'Abidjan, l'ancien Premier ministre Sidya Touré se dit prêt à mettre son expérience au service de l'intérêt général.
Rien ne peut se faire dans l'exclusion. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Pour ma part, je renouvelle mon engagement patriotique à mettre mon expérience d'homme d'État, mon amour de la Guinée ainsi que mes contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général pour une gouvernance vertueuse dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux.
Le dialogue inclusif qui s'ouvre semble rassurer Dr Ousmane Taba, proche d'Alpha Condé, devenu opposant, lui aussi offre toute sa disponibilité à la junte au pouvoir.
Nous avons exprimé notre disponibilité à aider les nouveaux dirigeants parce qu'en réalité, nous avons tous intérêt à ce que cette transition soit une bonne transition. Elle ne peut pas l'être si nous tournons le dos et que les uns et les autres sabotent la transition.
Ces concertations vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Après les leaders des partis politiques, suivront d'autres invités. Il s'agit des représentants des coordinations régionales, les chefs religieux, les présidents des organisations de la société civile, les représentants des missions diplomatiques, les représentants des associations des Guinéens de l'étranger, les patrons des différentes sociétés minières implantées en Guinée, les présidents des différentes organisations patronales, les directeurs des banques primaires et microfinances et les représentants des différentes centrales syndicales. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Pendant combien d'années peut-on rester à la tête d'organisation de l'administration publique au Cameroun? Eh bien, la loi fixe la durée de ces hautes fonctions à au maximum 9 ans. Mais il se trouve que plusieurs responsables à la tête d'entreprises publiques depuis plusieurs décennies. Ceci doit cesser selon le Front des démocrates camerounais, un parti de l'opposition qui a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel afin de déchoir ses dirigeants. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julentap.
Nos éminents membres du Conseil constitutionnel ne se sont appuyés que sur la Constitution et sur les règlements, le fonctionnement du Conseil constitutionnel pour statuer sur la non-recevabilité pour défaut de qualité.
Robert Ekani est le directeur national du Front des démocrates camerounais. Le 7 septembre dernier, il a défendu au cours d'une audience devant le Conseil constitutionnel le processus de destitution des présidents de conseils d'administration, directeurs généraux et leurs adjoints qui cumulent plus de 9 ans à leur poste. Malgré le rejet de son recours, il a annoncé une nouvelle saisine de la justice.
Nous allons saisir l'Assemblée administrative et nous allons saisir le tribunal criminel spécial. Parmi ces personnalités qui sont en dépassement de mandat, nous allons partir sur la base de la loi de 2017. Elles étaient déjà dans l'illégalité avant la loi de 2017. Elles continuent à l'être dans la loi après la loi de 2017. Et nous allons comptabiliser tout ce qu'ils ont reçu comme avantages, comme salaires et autres pour en constituer un motif de détournement des deniers publics.
Depuis 2017, la loi limite à 9 ans le nombre d'années qu'un directeur général, son adjoint ou un président de conseil d'administration peut passer à la tête des entreprises publiques.
Finalement, la loi est taillée pour sauvegarder les intérêts d'une certaine catégorie de personnes.
Les Camerounais ne sont pas indifférents à ce sujet.
Dans des démocraties véritablement modernes, ce n'est pas bien que notre nation devrait véritablement s'arrimer au respect strict de la loi.
Ils ne sont pas les seuls à rester en poste. Beaucoup de Camerounais sont au chômage et des Camerounais qualifiés qui auraient pu occuper ces postes et faire mieux.
En avril 2019, l'ancienne directrice générale adjointe de l'Institut supérieur de management public, professeur Viviane Odouabioulé a demandé à être déchargé de ses fonctions après avoir cumulé 9 ans à son poste.
Quand je le faisais, je ne visais pas un coup. Puis j'estimais que moi, je ne veux pas rentrer dans l'illégalité. Je connais la loi, j'ai lu la loi. Parce que les responsabilités civiles et pénales sont individuelles et on ne peut pas tout attendre du président de la République puisque l'activité doit se réguler. Les lois de 2017, contrairement à la loi de 99, insistent sur la procédure qui doit être déclenchée pour le remplacement. Et au nom de cette procédure, moi, j'ai saisi ma hiérarchie qui peut faire l'analyse et m'écrit pour dire que, ok, madame, le président de la République continue à vous faire confiance, vous pouvez continuer. Ou alors, qui va vous dire, après analyse, vous avez le choix de partir, de rester. Ou alors, nous avons décidé qu'on partit. C'est eux qui décident. Chacun assume sa responsabilité.
Selon la Constitution, seul le président de la République nomme à certains emplois civils. Contactés par VOA Afrique, les dirigeants concernés par le dépassement des mandats n'ont pas souhaité commenter la procédure judiciaire enclenchée contre eux par le Front des démocrates camerounais. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les agents de l'Observatoire volcanologique de Goma, qui surveille de plus près le volcan Nyiragongo, réclament depuis quelques jours la revalorisation salariale promise par les autorités congolaises après l'éruption de ce volcan cette année. Certains ont même déserté leur lieu de travail. La société civile craint que cette situation ne mette en péril la surveillance du volcan et en danger la vie des populations. Reportage de Janem Nitizaidi, notre correspondant à Goma.
C'est depuis juillet que certains agents de l'Observatoire volcanologique de Goma réclament l'augmentation de leur salaire. Cet agent, qui a souhaité rester anonyme, affirme que le salaire qu'il perçoit ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille.
Nous sommes très mal payés. Nous touchons le minimum de 70 000 francs congolais, soit l'équivalent de 35 dollars américains. Nous sommes locataires, nous avons des enfants envoyés à l'école, ils doivent aussi manger. C'est un gros problème que nous avons ici à l'OVG, celui d'être mal payé. Nous souffrons énormément. 70 000 francs par mois pour un employé. Marié locataire, il ne peut pas vivre mieux.
Les autorités congolaises avaient pourtant promis de résoudre cette question des salaires quelques jours après l'éruption du volcan Nyiragongo en juin dernier. La société civile craint que si cette question n'est pas résolue rapidement, elle n'empiète sur les travaux de surveillance du volcan, ce qui mettrait en danger la vie des paisibles populations. Étienne Kambalé est un acteur de la société civile.
Quand il y a des guerres comme ça, certains agents vont se dire « Oh non, on n'est pas très bien payé. » Est-ce qu'ils vont faire la descente sur terrain pour aller capter, suivre de très près le mouvement des volcans? C'est là où nos intérêts risquent d'être compromis. Il faut que le ministère de la Recherche scientifique tape sur la table, frappe là où ça doit faire mal pour nous amener de surveiller comme il faut les volcans pour qu'on soit quitte d'être sécurisé.
Après une alerte de la société civile sur les guéguerres, au sein de cet observatoire géré par l'État, le ministre national de la Recherche scientifique a dépêché son directeur de cabinet pour s'enquérir de la situation en vue d'apporter des solutions appropriées. Dans une interview exclusive accordée à VOA Afrique, ce dernier assure que la question salariale sera réglée sous peu.
Pour ce qui est des cas de souffrance en termes soit du salaire de base, soit de la prime institutionnelle, toutes les démarches sont déjà menées et nous avons l'espoir que d'ici peu de temps, ça pourra connaître une solution.
En dehors de la préoccupation liée au paiement des agents, ce service de l'État a d'autres difficultés qui empiètent sur son fonctionnement, comme le manque d'équipement approprié pour surveiller les volcans. C'est le problème d'ailleurs qui n'a pas permis à cet observatoire de prévoir et d'anticiper la récente éruption de mai dernier. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, la classe politique a, dans une rare unanimité, rendu hommage à l'ancien Premier ministre Charles Konan Bani, décédé vendredi à Paris à l'âge de 78 ans. Le président Alassane Ouattara a salué un grand serviteur de l'État. Le PDCI, dont M. Bani était un pilier, a parlé d'un serviteur exceptionnel et exemplaire. Laurent Gbagbo, l'ancien président de M. Bani, a été le premier ministre de décembre 2005 à avril 2007, a salué la mémoire d'un grand commis de l'État. Au micro de Jean-Roger Bion, un témoignage du professeur Simplice Yodé Dion, directeur national de campagne de Charles Konan Bani, lors de la présidentielle ivoirienne de 2015.
Charles Konan Bani vient de nous quitter. Et il mérite tous ses hommages parce que, comme l'on dit chez nous, en pays dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un garçon qui s'en va. Oui, c'est un grand homme qui s'en est allé. Un homme impressionnant, un homme de culture, un homme qui a des qualités intellectuelles immenses, qui maîtrise les grands dossiers de l'État, qui a une connaissance profonde des cultures ivoiriennes. Un homme qui mettait les valeurs au cœur de la politique. Et qui voulait que la politique élève le fait, l'actualité à la dignité de la valeur. Il aimait les jeunes, il aimait l'intelligence. Charles Konan Bani aimait passionnément la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi sa compagnie nous a beaucoup impactés, parce qu'il nous a montré que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout.
Le banquier, le commis de l'État, le politicien, qu'est-ce qui a eu l'ascendant dans la vie publique de Charles Konan Bani?
Charles Konan Bani était à la fois un grand banquier, un grand commis de l'État, un homme politique d'envergure, et c'est tout cela mis ensemble qui définit ses Kabé, comme on l'appelait. Je retiendrai de lui qu'il aimait beaucoup son pays, qu'il trouvait sa joie dans le bonheur de son pays, et qu'il était pénétré des valeurs de la République. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il a voulu faire de son pays un pôle. Il a voulu que son pays rayonne et il a pensé à un moment donné de sa vie qu'il pouvait apporter quelque chose au plus haut niveau de l'État, d'où son engagement en politique. Mais ce qu'il faut retenir de lui, pour moi qui l'ai côtoyé un certain temps, c'est un homme qui aimait passionnément son pays. C'est un homme qui était un homme de valeur et qui voulait que la Côte d'Ivoire soit un pays de valeur.
En 2011, M. Bani a dirigé la commission Vérité et Réconciliation. On dit qu'il était un passionné de réconciliation notamment. Doit-on parler de symphonie inachevée à ce niveau, professeur Dion?
Charles Konan Bani ne souhaitait pas autre chose qu'une Côte d'Ivoire rassemblée et réconciliée. Et pour cela, pour lui, dans nos échanges, il fallait tenter de rapprocher les extrêmes, d'arrondir à chaque fois les angles. Je crois qu'il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il pensait que dans un contexte très clivé et très clivant, il fallait le réussir. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas et cela lui a laissé un goût amer. Peut-on parler de symphonie inachevée? Je dirais oui. Oui, parce que cet homme aux qualités intellectuelles et humaines phénoménales aurait pu apporter davantage à son pays. Mais l'histoire et le destin ont voulu qu'il en fût autrement. Moi qui ai beaucoup parlé avec lui et beaucoup appris de lui, j'en suis très triste aujourd'hui.
Le professeur Simplice Yodé Dion, ancien directeur de campagne de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Bani, est président de la LINESI, un mouvement citoyen de jeunes leaders et entrepreneurs ivoiriens.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibour avec vous. De plus en plus de pays imposent désormais la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Aux États-Unis, les employés fédéraux et leurs sous-traitants, le personnel des maisons de retraite et des écoles recevant des subventions fédérales devront être vaccinés. En Guinée équatoriale, la vaccination est obligatoire depuis le 20 juillet pour les militaires, les personnels de santé ou les enseignants. En Gambie, les autorités imposent la vaccination depuis la mi-août aux employés du tourisme. Le Zimbabwe a averti mercredi que les fonctionnaires refusant de se faire vacciner devraient démissionner. Quelle est la règle dans votre pays? Que pensez-vous de la vaccination obligatoire? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou venez en discuter en direct dans À votre avis à 18h05 temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de